séance d'éducation contre les préjugés et le racisme au collège de Jastres d'Aubenas. Une classe accueillait deux membres d'une association nationale d'éducation populaire. Voici quelques extraits de leurs échanges lors d'un débat en classe.
Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Elodie, je fais partie du MRAP.
Moi c'est Damien.
Donc on est bénévoles tous les deux. Donc le MRAP ça veut dire Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. C'est une association qui existe au niveau national et nous on fait partie de l'antenne d'Aubenas qui regroupe rapidement plusieurs actions. Un accompagnement juridique au quartier des Oliviers tous les lundis après-midi, des actions plus politiques, donc manifestations, pétitions, tout ce qui peut influencer les politiques locales ou nationales, des événements, des actions pédagogiques et un réseau solidaire aussi. Voilà. Donc on insiste bien sur le fait qu'on est bénévole. C'est OK pour tout le monde, le terme de bénévole ?
C'est quelqu'un qui travaille sans être rémunéré.
C'est ça. Qui donne de son temps. C'est juste qu'on peut témoigner de choses qu'on constate ou qu'on va pouvoir vous parler de choses qu'on a lues, des idées qu'on a creusées, etc.
Du coup, vous avez un métier à côté.
Rémunéré, tu veux dire ? Oui. Ouais, c'est pour dire aussi que... Donc au sein du MRAP, il n'y a pas de prérequis pour faire partie des bénévoles. On n'a pas de formation à la base ou de... Moi, par exemple, je suis infirmière.
Moi, je suis réalisateur vidéo.
On a des photographes, on a des chevrières, tout un tas d'autres métiers à côté qui ne nous prédisposent pas particulièrement à faire tout ce que je vous ai cité là. On se forme au fur et à mesure et on apprend aussi d'expériences de personnes qui sont là depuis plus longtemps que nous. Ok. On va peut-être commencer par définir certains termes parce que ça va nous permettre aussi de pousser un peu la réflexion au-delà de ces termes que des fois on a l'impression un peu de tous connaître et en fait on se rend compte qu'on ne voit pas les choses de la même façon ou que la façon dont on en parle à la télé, dans les bouquins, dans la famille, etc. c'est pas forcément la définition qu'on s'était imaginée. Donc on va vous laisser parler un peu aussi.
On commence par le plus gros mot de notre intervention. Celui qui est le plus connu, celui qui véhicule le plus de clichés, d'idées reçues. Donc on va se mettre au point, au clair là-dessus, vis-à-vis de vous, puis vis-à-vis de nous. Qu'est-ce que vous entendez par le mot racisme ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Est-ce que vous en avez peut-être une définition déjà, ou simplement une vague notion ?
Il me semble que c'est la discrimination envers les personnes de couleur.
Très bien. Tout est ouvert, hein, vous pouvez y aller.
Des injures envers une personne qui n'a pas la même race que nous.
Moi, je pense que c'est le fait de considérer qu'il y a plusieurs races humaines. Voilà.
Ça peut même aller au-delà des injures. Ça peut même aller à la violence physique.
C'est les stéréotypes.
Mais alors, c'est un grand mot, stéréotype.
Est-ce que vous pouvez nous donner un synonyme, peut-être qui est plus connu pour parler de stéréotypes ?
Cliché.
Ouais. Ouais, pas mal.
Un synonyme de cliché.
Les préjugés.
Donc en effet, il y a le terme de race qu'on met bien entre guillemets qui est revenu. Pourquoi entre guillemets ?
Parce qu'il n'y a pas vraiment plusieurs races d'humains. C'est plutôt une particularité, avoir une couleur de peau.
En effet, biologiquement, il n'y a pas de différence. On appartient tous à la même espèce qui est l'espèce humaine. Donc voilà, pour vous faire une image, vous faites une autopsie de deux personnes, on va dire, d'origine différente. Il n'y aura pas de différence biologique, en fait. Voilà. On est constitué de la même manière. Après, tout est question de construction. Alors après, c'est quand même... on ne peut pas se passer, en fait, de l'utiliser parce que ça va nous permettre de pouvoir étudier les effets du racisme, justement. En fait, ça va être plutôt pour faire de la socio autour de ça. Et montrer comment ça peut influencer des façons de faire, d'empêcher l'accès.
C'est un mot qui est très commode, en fait. C'est un mot qui est faux, puisqu'on sait qu'on est tous de la même espèce humaine, mais qu'on a tellement l'habitude d'utiliser que, on le trouve très commode. Au lieu de parler de nationalité, on peut parler de race, ou d'ethnie, on peut parler de race, sans forcément que ce soit du racisme. Nous, si ça se trouve, autour de 7h30, on va utiliser ce mot race, sans que ce soit péjoratif. Parce que, mais il faut faire bien le distinguo entre le fait qu'on est tous d'une même espèce humaine, donc il n'y a pas à diviser, et le fait qu'il existe un mot qu'on a inventé et qui est bien utile parfois, parce que on n'en a pas encore peut-être trouvé d'autres.
Et alors, par rapport au racisme en lui-même, donc il y a pas mal de choses que vous avez citées, qui sont qu'en effet...
Tout ce qui tourne autour de l'agression, on va dire. Agression verbale et agression violente, ça on va y revenir.
Donc il y a toute une des actions en fait qui sont d'ordre négatif, donc que ça soit par les discriminations aussi. Mmh. Et en fait, au niveau de l'idéologie, du principe du racisme, ça serait de considérer qu'il y a des races qui sont supérieures à d'autres races et qui justifieraient des traitements différents d'une personne à une autre.
Idéologie, vous connaissez ce mot-là ? Vous voyez ce que ça veut dire ?
Une idéologie, c'est une idée que porte une personne et que d'autres adhèrent.
C'est une construction. Oui, c'est une construction. C'est un concept qui est créé par des hommes parce que ça les, enfin, ou par des femmes parce que ça les sert pour asservir d'autres personnes.
Le c'est racisme. La façon dont on peut voir une société.
Je dirais que c'est en quelque sorte une vision qu'on a du monde, en quelque sorte.
Oui, mais c'est une construction à la base. En fait, le racisme, c'est une invention, en gros, qui date du 15e siècle, enfin, pour les Européens, et qui correspond à l'époque de l'esclavage. Et ensuite, à l'époque des décolonisations, c'est bien commode parce que ça permet de hiérarchiser les races. Et comme ça, on peut les massacrer, on peut les asservir, on peut les piller plus facilement.
Mais c'est ça, une idéologie, c'est un principe de base qu'on va adopter. Et à partir de là, ça va justifier tout ce qu'il y a derrière, oui.
Et le principe adopté, il a bien été lancé par une personne en particulier.
Oui.
Il y a un prof d'histoire.
C'est comme la guerre, bien sûr.
Après, est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi on peut avoir intérêt à diffuser ces idées-là, ou en tout cas, comme on disait tout à l'heure, des stéréotypes, des clichés? Est-ce que quelqu'un a une vague idée de ce à quoi ça peut servir? Pourquoi est-ce qu'il y a des individus à la base qui auraient intérêt à diffuser ce genre d'idées?
La jalousie, par exemple, Hitler, il trouvait que la race aryenne, ils étaient meilleurs, ils étaient supérieurs.
Par intérêt aussi, par exemple, comme une partie de la population était minoritaire en termes de couleur de peau, eh bien, il a utilisé cette minorité pour en jouer, pour faire de l'esclavage avec... Voilà.
C'est une idéologie, ça sert quand même, ça a une fin utile. Économique, politique, ouais.
Je dirais que ça peut être aussi, comme dirait Erwin, par intérêt, mais plutôt politique. S'il y a un truc qui ne marche pas, on peut très bien dire c'est leur faute à eux.
C'est la faute des Juifs dans le cas des Aryens. Ouais. Et après, ça explique des massacres.
Des lois, des façons de faire, des coupes budgétaires. Enfin, ça peut être,
C'est un peu aussi comme une carte Joker, comme si, par exemple, on ne sait pas d'où vient, par exemple, un meurtre, on va forcément se tourner dans certains pays vers la couleur de peau, généralement.
Ouais, ça peut donner une explication.
Imaginons qu'il y a une personne de couleur de peau qui se fait assassiner, on ne va pas trop en parler dans les médias ou autres, alors que si une personne de couleur de peau, par exemple blanche, on va plus en parler, quoi.
Moi, j'ai une question. Est-ce que les actes de Martin Luther King, Nelson Mandela ont changé quelque chose au racisme? Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont démontré.
Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à ça ?
Moi, je dirais que ça a peut-être servi dans l'immédiat, mais quand aujourd'hui on voit que les chiffres du racisme, des actes racistes sont en hausse, on peut s'inquiéter.
Déjà, ça a servi parce que c'est le racisme se répercute beaucoup moins qu'avant, quoi, comme il n'y a plus de commerce triangulaire ou d'esclavage des Noirs, quoi.
Enfin, je pense pas que les personnes qui étaient à la base racistes ont changé d'opinion envers ces personnes-là. Mais à partir du moment où Nelson Mandela ou autres personnes de couleur ont parlé, je pense que les « blancs », entre guillemets, ont commencé à en parler eux aussi, à médiatiser la chose et à vraiment en parler, à construire peut-être des associations pour lutter contre ça ou autre.
De manière en plus très concrète, ça a quand même participé à la fin de la ségrégation, donc
l'apartheid.
Voilà, enfin, ça a quand même eu des conséquences très concrètes dans la vie des Noirs à ce moment-là.
Les idées l'idéologie, c'est comme un organisme qui est vivant. Et le racisme, c'est la même chose. Hein. Il se modifie, il est combattu, mais aussi il rebondit. Et on peut dire qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé durant la dernière décennie aux États-Unis, et ce qu'on voit aussi aujourd'hui, les propos qu'on entend à l'égard des migrants, etc., ou même sur les chaînes mais de télé, eh bien finalement, ça renaît. Donc on peut dire que, bien sûr, que ça a servi, mais que néanmoins, lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination, c'est toujours mais quelque chose qu'il faut remettre mais sur la table comme un ouvrage à retravailler en permanence, comme une vigilance qu'on doit avoir quand on défend des valeurs, quand on veut qu'elles soient incarnées.
Pour rebondir là-dessus, je voulais juste dire que, en effet, tout le monde a tendance à vouloir, on a des cerveaux qui aimeraient bien avoir des explications simples à des questions qu'on peut se poser ou à des problèmes qui se posent dans une société. Et qu'en fait, ça peut servir à répondre à ça aussi. Quand c'est trop, un peu trop compliqué, des fois, d'apporter une réponse un peu nuancée à un problème qui se passe, ça, c'est parce que tout à l'heure, on a parlé d'Hitler et que c'était ça aussi. C'était apporter... C'est plus simple de se tourner vers un groupe ou une réponse très simpliste à un problème qui ne l'est pas, de définir finalement un ennemi commun. Et du coup, c'est là où vous avez aussi ces mécanismes de racisme et la façon dont s'est diffusé les clichés, les stéréotypes autour, etc., que ça va être utile.
Moi, j'ai l'impression sur le racisme qu'il y a une sorte de surdité. La majorité des Français se disent « Ok, mais moi, je ne le suis pas, donc en quelque sorte, excusez-moi de l'expression, je m'en fiche en quelque sorte. » Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu cette sorte de déni autour du racisme.
T'as raison. Il y a un déni parce qu'il y a aussi une incompréhension des mots. Et bah, on est là aussi pour en expliquer. Vous allez voir que tout ça, ça a un rapport avec ce déni. Parce que racisme, c'est une idéologie, donc vous pouvez très bien dire « moi, cette idéologie ne m'intéresse pas ». Et puis, en fait, au fond de vous, par votre culture, parce que vous avez hérité de choses de vos parents, vous êtes rempli de préjugés, de clichés, qui peuvent donner lieu à la fin du racisme. Mais ça, c'est vraiment l'idéologie, donc on y adhère ou pas.
Alors, quand on dit « vous », c'est nous, toutes et tous, en fait. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est un travail de lutter contre, en fait. On ne fait pas exprès de porter un cliché, un préjugé, des stéréotypes. Ça nous englobe tous. C'est dans la société dans laquelle on vit, donc dans les médias, dans les familles, dans ce qu'on lit. Ça va être un travail que de se dire « Oula, j'ai pensé ça d'un coup. Ça va, là, ça ne va pas. Je ne suis pas en accord avec ça. » Et j'essaye de... C'est faire un effort pour essayer de lutter contre, en fait, ces clichés. Une fois qu'on sait ce que ça peut... amener comme inégalité, comme discrimination, etc., ça va vraiment être un effort. C'est-à-dire qu'on ne fait pas exprès de porter des préjugés, des stéréotypes, etc. Par contre, lutter contre le racisme, c'est faire exprès de faire attention aux idées qui nous traversent, aux images qu'on a, à ce qu'on peut dire et qui peut blesser, en fait. Donc, il y a vraiment cette notion de... Là, il faut aller faire un effort pour lutter contre, quoi.
De vigilance tout à l'heure. On est forcément imprégné, mais de représentation. L'idée qu'on puisse être parfait, etc., ça n'existe pas. N'empêche que la réalité du monde et notre implication dans cette réalité, elle se traduit par des actes et par des faits. Et les actes et les faits qu'on porte ou qu'on assume, eh bien finalement, ils peuvent s'inscrire dans une logique qui peut être elle-même raciste ou discriminatoire, etc., etc. Et c'est peut-être à cette vigilance-là, en sachant encore une fois que nul n'est parfait, aucun d'entre nous, eh bien finalement, prendre conscience, conscientiser ce qu'on fait et les conséquences que ça peut avoir.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire du coup autour du sexisme, comme on a fait autour du racisme ?
Pour la faire courte, c'est la même chose que le racisme, mais envers le sexe de la personne. En gros... femme, homme.
Donc quoi, qui, quoi, comment?
C'est plutôt ouais. Penser que la femme est soumise à l'homme, entre guillemets. C'est,
Pourquoi tout le temps la femme?
Ouais, voilà.
Bah, t'as déjà connu une femme qui battait son homme?
Je suis pas d'accord, parce qu'il y a très bien des femmes qui battent les hommes. Hein. C'est une majorité, peut-être, mais ça veut rien dire.
Vous êtes pas les victimes tout le temps. Hein.
Ouais. Non, mais où?
Alors, comment on peut articuler ces deux choses que vous dites? Il n'y a pas de vrai ou de faux?
C'est une idéologie comme quoi il y aurait un sexe fort et un sexe faible.
Comme pour le racisme, on pourrait dire oui, mais il n'y a pas de racisme envers les blancs, alors que si c'est possible, c'est pour ça qu'on dit que c'est une égalité entre les peuples. Donc là, c'est une égalité entre les sexes, donc ça peut être n'importe quel sexe.
Ouais,
Plus généralement, le sexisme, ça vient de base, ça vient sur le fait de penser que la femme est inférieure à l'homme. Après, ça a pu évoluer dans le sens inverse, mais de base, il me semble que c'est ça. Et on parle même beaucoup moins de sexisme envers les hommes, étant donné qu'il y en a beaucoup, beaucoup moins. Mais...
En tout cas, historiquement parlant, et dans notre éducation, c'est plutôt les hommes qui discriminent les femmes, et c'est pas l'inverse. Vous vous faites pas suivre dans la rue, tu vois.
Ça peut être l'inverse.
Oui, ça peut, mais tu vois, ça l'est pas. Non, mais non, je crois pas, tu vois, c'est... Généralement, non, après, faut pas faire de généralité, je suis bien d'accord, mais la majorité des cas, c'est quand même les femmes.
Donc tu fais une généralité.
Non, c'est la majorité. Oui, c'est une constatation.
Non, c'est pas un constat.
Si.
Le sexisme, c'est la supériorité d'un sexe sur l'autre. Mais en effet, les chiffres des inégalités, en fait, ce qui va compter, c'est un peu le résultat de cet empêchement. C'est vrai qu'il a été question à un moment donné de racisme anti-blanc. Le fait est que les blancs n'ont visiblement pas de difficultés pour accéder à tous leurs droits, à tous les emplois, à tous les logements. Le fait est que les inégalités chiffrées se portent sur les femmes qui en seraient victimes plutôt que l'inverse. Étudier quelque chose à travers le sexisme, par exemple, permettrait d'étudier les choses dans les deux sens. C'est-à-dire que ça n'empêche pas qu'il n'y ait pas de discrimination qui puisse se faire dans les deux sens. Mais en fait, en effet, pour le moment, les inégalités sont clairement en défaveur des femmes.
C'est aussi une idéologie, donc c'est quelque chose qui est construit. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas quelque chose qui est inné à l'espèce humaine. C'est construit parce que, à toute fin utile. Pourquoi, il y a des siècles de ça, on a pensé que les femmes étaient inférieures aux hommes? Est-ce que vous avez des petites pistes là-dessus?
Parce qu'avant, la femme, c'est elle qui, par exemple, restait au domicile pour s'occuper de l'enfant ou autre. C'est elle qui faisait à manger, c'est elle qui faisait les tâches ménagères à la maison. Donc c'est forcément elle qui devait scoltiner au boulot de maison et qui, ensuite, ça a évolué, entre guillemets. Il y a certaines personnes à qui ça n'a pas forcément plu.
Oui, c'est ça. Quand même, c'est une invention qui a servi aux hommes pendant très, très longtemps. Aujourd'hui, ça, les choses changent difficilement, lentement, pas assez vite, parce que ça fait des siècles que ça fonctionne comme ça. Mais voilà, au début, c'était encore, comme le racisme, une histoire de supériorité d'un genre sur l'autre. Construction qui sert à un genre plutôt qu'à un autre, ou à une catégorie de personnes plutôt qu'à une autre. C'est toujours une histoire de supériorité. Dans ces idéologies-là, on ne vise pas l'égalité. Trop compliqué. C'est plus facile d'écraser.
Je veux rebondir sur ce que tu as dit, comme quoi, avant, les femmes, elles restaient à la maison, elles s'occupaient de l'enfant et tout. Mais on ne leur a jamais obligé. Enfin...
C'est subtil. Hein.
Elles partent et voilà, c'est bon.
C'est dans les traditions un peu de faire ça aussi. C'est... Non mais c'est inscrit dans l'histoire, c'est les femmes qui font ça de base, c'est leur boulot à elles.
Imaginons dans une tradition assez ancienne qu'une femme qui a des enfants en est marre et décide de partir. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle d'il y a 2 ou 3 siècles. Comment elle fait? Comment ça se passe pour elle?
Est-ce qu'à partir du moment où c'est permis par la loi, où il n'y a rien de concret là-dedans qui empêche d'accéder à quelque chose, est-ce que ça suffit ?
Faut savoir que si une femme elle voulait partir, déjà c'était très mal vu dans la société, et ensuite elles n'avaient pas forcément le droit d'avoir leur propre compte bancaire, elles ne pouvaient pas avoir leur propre argent, c'était même pour retirer de l'argent, elles devaient demander à leur mari, enfin tu vois, c'est pas possible.
C'est vrai que les femmes, si il y a 2-3 siècles, elles devaient partir... partir pour loger seules avec leur enfant, faut savoir que même vers les années 1960, les femmes n'avaient toujours pas le droit d'ouvrir leur propre compte bancaire, alors non sans le droit de leur mari. Donc il y a 200-300 ans, c'était encore plus compliqué que ça.
Après, on ne sait pas, mais peut-être au départ, elles étaient d'accord. Nous, on ne le saura jamais, mais on ne peut pas savoir. J'étais peut-être d'accord au départ.
Mais Thomas, il y a un peu de mauvaise foi là-dedans.
Non, ça soulève une question. Est-ce que les principales concernées n'ont pas d'avis là-dessus? Est-ce qu'ils n'ont jamais émis d'avis là-dessus? Moi, je pense que si, et que du coup, on peut en tout cas se donner la peine d'écouter ce qu'ont à dire les personnes qui sont concernées. Ça serait peut-être la première démarche à faire pour savoir si c'est bien ou mal vécu. Que ça concerne le racisme comme le sexisme d'ailleurs.
Ça a pu évoluer. Au début peut-être ils acceptaient et puis après ça a changé. Ils ont commencé à se révolter et puis ils ont vu que c'est pas ce qu'ils voulaient et donc ça a changé peut-être.
Aujourd'hui encore, une femme qui par exemple est battue, qui essaye de partir avec ses enfants, aujourd'hui encore, même en dépit de mesures qui sont prises depuis un certain nombre d'années, traverse des conditions extrêmement difficile et pénible, et on a même vu des fois des violences qui étaient faites à elle malgré des signalements, etc. Donc c'est toujours des situations qui aujourd'hui encore restent malgré tout mais très difficiles, et l'inverse en général 999 fois sur 1000 ne se produit jamais. Voilà.
Tout à l'heure, on parlait des clichés, des stéréotypes qu'il y avait dans les deux sens. Est-ce que tout le monde n'en souffre pas ? C'est-à-dire, est-ce que les hommes ne souffrent pas aussi de certains clichés, en fait, de certains stéréotypes ?
Mais après, c'est peut-être que moins le racisme, mais quand même dans la société de nos jours, le sexisme, enfin, comment dire, les femmes, la place de la femme dans la société prend un boost, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais... Enfin, il y a moins de préjugés à ce niveau-là qu'au niveau du racisme, en tout cas. Enfin, de mon point de vue. Oui, oui, voilà, c'est ça.
Au niveau du sexisme que du racisme.
Et c'est vrai que le sexisme, même si ça a beaucoup évolué ce dernier siècle, ça a évolué les 50 dernières années, même si c'est pas encore tout à fait au point, c'est vrai que le racisme reste encore plus ancré. On a du mal à faire partir cette idée de race.
C'est vrai qu'il y a eu d'énormes avancées. Il y a 100 ans, les droits de la femme en France, c'était un peu ceux actuels au Qatar. Donc ça a beaucoup évolué.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est la femme, au pire, elle porte plainte et voilà.
Non, mais la justice, elle est pas bien. Elle est pas comme il faut. C'est comme les affaires. C'est ceux qui ont beaucoup d'argent, et ben c'est plus simple pour eux de s'en sortir. Et les gens, par exemple, il y a eu des grandes affaires où il y a eu des viols, des gens connus, par exemple des footballeurs, ou je sais pas, ben ils sont en sortie comme ça.
Mais même il peut y avoir un après. Enfin, la femme, elle a forcément peur que son ex-compagnon le retrouve après. Ben, si, c'est la principale raison pour laquelle les femmes ne quittent pas leur mari quand elles sont battues.
Là, tout ça, du coup, ça se résume en termes de freins ou d'obstacles invisibles qu'on peut rencontrer dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. En fait, je pense que, est-ce qu'on peut être tous et toutes d'accord pour se dire qu'au-delà des lois, de ce que permettrait la loi, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui pourraient empêcher une parfaite égalité dans tous les cas, et qui continuent à entraîner des discriminations. On est OK avec ça, ou est-ce qu'il y a... Ouais. Et après, on a souvent tendance à entendre que, du coup, on peut dire ce qu'on veut, qu'au nom de la liberté d'expression, il n'y a pas de limite sur tout ce qui est porté au niveau de la parole, etc. Et pourtant, il y a quand même des choses qui tombent sous le coup de la loi. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus ? Sur le fait que, est-ce qu'avec la liberté d'expression, ça nous permet de pouvoir dire tout et n'importe quoi dans les médias, à la maison, à l'école ?
Non. Enfin, certes, c'est la liberté d'expression, mais il y a quand même des choses à pas dépasser. Enfin, il y a des limites.
Oui, tout à fait.
Je connais pas les limites, mais...
Oui, il y a des limites à la liberté d'expression, mais là, je vais un peu sortir du cadre. Je trouve qu'en France, aujourd'hui, à la moindre petite phrase sur un parti politique, il porte plainte en diffamation. Donc je trouve qu'elle est un peu en danger cette année, encore ces dernières années.
Et pourtant, elle est bien définie.
Oui, la loi interdit et sanctionne le racisme lorsqu'il s'exprime sous forme de propos injurieux, de comportements discriminatoires, c'est-à-dire au travail, par exemple, traitement défavorable de personnes se trouvant dans une situation comparable dans le domaine de l'emploi, de l'éducation, d'accès à la location. C'est des fois le cas quand quelqu'un cherche à louer un appartement. Et bien sûr, la loi interdit le racisme lorsqu'il s'exprime sous forme de violence physique. Mais ça, c'est logique. Quand je dis propos injurieux, qu'est-ce que ce serait ?
Les insultes.
Les insultes, ouais. Les insultes, ça peut être quoi alors ? Si on cherche vraiment l'insulte raciste,
Salle noire. C'est plus... je sais pas si je peux le dire, parce que c'est bougnoul.
Bougnoul, ouais. Ouais, tout ça, c'est vraiment condamné par la loi.
En fait, c'est pas seulement l'injure, c'est tout ce qui associerait une catégorie de personnes à quelque chose de négatif. Pour vous donner un exemple très concret qui a vraiment existé il y a pas longtemps et qu'on a dénoncé avec le MRAP, c'était le fait de dire que tous les mineurs non accompagnés, donc c'est des gens qui arrivent en France pour être sous protection de la France, donc sans leurs parents, de façon isolée. Et en fait, ça a un coût pour le département de s'en occuper, de ces personnes. Mais c'est un devoir de la France de le faire. Et ben, pour justifier une politique qui viserait à casser un peu le budget et à ne plus prendre en charge ces personnes-là, on les a définis comme étant des délinquants en puissance sur un tract politique. Donc là, il y a quand même clairement l'amalgame de faits entre être un délinquant et être d'origine étrangère, sans que ça soit chiffré, avec des chiffres qui étaient complètement sortis de leur contexte. Donc il y a ça aussi. En fait, attention.
Étranger, jeune, dangereux.
Voilà. Jouer sur les images, les représentations qu'on peut avoir, l'effet de menace, etc. pour justifier, bah là on voit bien ce truc de, avec une idée, aller justifier une politique. Mais là, par contre, ça peut être attaqué parce que c'est de la diffamation en fait. Le chiffre n'était pas du tout... ça ne correspondait pas à une réalité et non, on ne peut pas dire ce qu'on veut et encore moins faire ce genre de catégorie.
Moi, je veux revenir sur une parole quand même, sur des paroles. C'est en fait qu'aujourd'hui, oui, il y a cette idéologie jeune, étranger, dangereux, mais on n'a pas besoin de rechercher dans le RN ou dans Reconquête pour voir ça.
Même le fait d'associer quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui est immigré, l'associer à quelque chose de dangereux, ça peut être une excuse pour le renvoyer dans son pays, par exemple. C'est...
Bien sûr. Et là, on voit que le racisme a une utilité.
Les images qu'on montre des gens qui arrivent en France, c'est pas n'importe quelles images en fait. Vous voyez pas des familles arriver. Vous voyez souvent des files de garçons noirs, alors qu'il y a autant d'immigration féminine que masculine en fait. Mais c'est parce que ça renvoie cette image de menace, d'invasion. Voilà. Enfin, ça joue sur complètement les idées reçues et tout ça.
Le danger.
C'est ça. Donc, attention, voilà, à même image, on peut avoir plusieurs lectures différentes. Et vraiment, le but, c'est d'arriver à s'y retrouver un peu avec ce qui est montré et à arriver à prendre un peu de recul avec pour dire, OK, en fait, je peux mettre ce scénario-là derrière, mais je peux mettre aussi ce scénario-là. Ça dépend dans quelle société j'ai envie de vivre aussi.
Un débat interactif très riche avec ses élèves du collège de Jastres d'Aubenas. Vous l'aurez compris, cette pratique de l'échange facilite particulièrement la construction du jugement moral et du civisme chez les élèves. De ce fait, elle se situe au cœur d'une éducation à la citoyenneté.